Bonjour, bienvenue dans Politique. Notre invité aujourd'hui, Bernard Cazeneuve. Bonjour Bernard Cazeneuve.
Bonjour.
Vous êtes avocat, ancien Premier ministre. Vous avez été à Matignon de décembre 2016 à mai 2017. Une expérience de 150 jours à la tête du gouvernement que vous avez racontée dans « Chaque jour compte » aux éditions Stock. Autre livre, autre expérience, « À l'épreuve de la violence », récit de votre passage au ministère de l'Intérieur d'avril 2014 à décembre 2016. Vous étiez en poste Place Beauvau lors des attentats parisiens de 2015 et de Nice en 2016. Vous êtes par ailleurs, mais je ne vais pas citer tous vos anciens titres, ancien député-maire de Cherbourg. Alors gouverner, c'est prévoir. Si des doutes subsistent sur l'identité de son auteur, on connaît la formule. Elle résume de manière efficace ce en quoi consiste l'exercice du pouvoir. Mais est-elle juste, cette formule, dans ces temps marqués par l'incertitude ? Crise économique et financière, crise migratoire, crise sécuritaire, crise climatique, crise sanitaire, crise sociale. Gouverner désormais, n'est-ce pas avant tout se confronter à l'imprévisible ? Et dans ces conditions, comment penser et préparer l'avenir ? Quand le présent, dopé par notre système électoral, impose autant son rythme. Alors comment gouverner en temps de crise ? Eh bien, c'est le thème de notre discussion en votre compagnie, Bernard Cazeneuve, discussion enregistrée à Blois, au rendez-vous de l'histoire. Je voudrais commencer cette discussion, justement, Bernard Cazeneuve, avec une crise à laquelle vous n'avez pas été confronté en tant que dirigeant politique, puisque c'est celle qui est en cours, c'est la crise sanitaire. Quelle appréciation vous portez sur l'action du gouvernement pour gérer cette crise ?
D'abord, je pense qu'il est encore trop tôt pour porter une appréciation définitive sur l'action de l'actuel gouvernement face à une crise inédite, qui ne touche pas d'ailleurs que notre pays, qui touche l'ensemble des pays de la planète, et dont il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et politique de reconnaître que personne ne l'avait vu venir dans cette dimension, avec cette ampleur, et personne n'avait non plus mesuré toutes les conséquences économiques, sociales que pourrait avoir une crise sanitaire comme celle à laquelle nous sommes confrontés.
Pas l'appréciation définitive, mais appréciation provisoire peut-être ?
Non, mais je le dis avec beaucoup de force, parce que je vois beaucoup de mises en cause. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes dans une responsabilité publique et que vous êtes confronté à des événements inédits, avant même que la crise ne soit terminée, il y a un ensemble d'acteurs dont le rôle est de mettre en cause systématiquement et parfois de façon outrancière l'action du gouvernement. Moi, je suis responsable face à une crise de cette ampleur. Je ne veux pas incriminer le gouvernement, et ce d'autant plus, je terminerai par là, que nous fûmes confrontés à une crise dans les années 2009-2010 et qu'il y eut, au moment où cette crise s'est développée, où le gouvernement avait pris beaucoup de mesures au nom du principe de précaution, confronté à des polémiques parlementaires et médiatiques, je pense à l'action de Roselyne Bachelot. Voilà.
Et dont on a vu à quel point
on en avait trop fait.
Cette polémique ne résistait pas forcément autant.
Les mêmes qui critiquaient à l'époque le fait qu'on en avait trop fait sont ceux qui aujourd'hui expliquent qu'on n'en a pas fait assez.
Alors justement, gouverner en temps de crise, quand une crise est inédite comme ça, on peut évidemment pas la prévoir, mais on peut se préparer en tout cas à affronter des crises qui, elles, sont inédites. Vous avez raison de dire que vous êtes resté assez discret depuis le début de cette crise sanitaire.
On l'a reproché, Bernard d'ailleurs.
Mais si vous vous souvenez, j'ai quand même retrouvé...
Certains de vos confrères me l'ont reproché.
Bon, moi, j'en fais pas partie,
en tout cas. Moi, je suis avec vous. Comme s'il était nécessaire, lorsqu'il y a des crises qui mettent en cause l'essentiel dans un pays, qui peuvent l'affaiblir grandement, que de faire des phrases pour faire en sorte que l'on ne soit pas oublié.
J'ai quand même trouvé une phrase, Bernard Cazeneuve, une intervention dans une interview que vous avez donnée à Crédit Social Magazine. C'était au mois de mai, et je cite notamment une de vos réponses.
Une revue
vous
de dites, grande diffusion.
C'est justement en général dans les niches qu'on arrive à trouver peut-être une part de la vérité des politiques. Vous dites « La crise sanitaire conduit à porter un regard sévère sur les facilités politiques » pour ne pas dire l'aveuglement ou la paresse intellectuelle de ceux pour qui les services publics ne sont appréhendés qu'au travers de leurs coûts. Ça, c'était quand même peut-être une façon, je me suis dit, de critiquer quand même le gouvernement, mais peut-être aussi le précédent gouvernement, parce que si on écoute les soignants qui nous expliquent que l'hôpital va mal et que l'hôpital va mal depuis de nombreuses années, je dis, est-ce que Bernard Cazeneuve ne fait pas une forme de mea culpa ?
Non, ça c'est ce que j'ai dit dans cette revue, au demeurant de très grande qualité et qui est réalisée par des militants du champ social, c'est que il y a dans ce pays, comme dans d'autres d'ailleurs, c'est un effet de la mondialisation, un amour irrépressible de la pensée libérale qui conduit systématiquement à considérer que les services publics coûtent trop cher, que ceux qui y sont employés sont nécessairement inutiles, ou en tous les cas pas aussi utiles qu'ils le prétendent, et par conséquent que l'économie se porterait mieux si les dépenses publiques étaient moins importantes, et que d'afficher le ratio des dépenses publiques par rapport au PIB pour justifier ou témoigner de l'efficacité d'une politique.
Et c'est ancien ministre du budget qui dit ça, puisque je n'ai pas dit dans vos titres anciens, mais vous avez été aussi ministre du budget.
J'ai été ministre du budget, et je pense qu'il est important de contrôler les comptes publics si on veut avoir des services publics de qualité. De même manière, je pense qu'il est important, si on veut des services publics de qualité, de pouvoir les moderniser. Mais ça ne signifie pas qu'il faille remettre en cause le principe même de l'existence des services publics dans une société où les inégalités augmentent et où le service public demeure, comme on aime à le dire, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et au moment où j'étais confronté à des crises importantes, je pense notamment à la crise terroriste, le soir du 13 novembre, lorsque je vais dans les hôpitaux et que je vois les soignants à la tâche et durement à la tâche, et en même temps qu'ils sont à la tâche, ils sont aussi dans le chagrin et dans l'émotion, soigner les blessés en nombre qui sortent du Bataclan et des terrasses de café, je suis dans le respect du service public. Lorsque j'ai vu les soignants dans la crise sanitaire donner autant d'eux-mêmes, j'ai mesuré ce qu'était l'importance et la qualité du service public. Et lorsqu'au moment de la crise terroriste, j'ai vu des policiers, des gendarmes, des militaires assurer la protection de tous les lieux de culte et de toutes les écoles, il m'est souvent arrivé de dire aux responsables d'un certain nombre d'organisations patronales ou à l'opposition de l'époque qui aimait à regarder notre politique à travers le seul prisme de l'évolution de la dépense publique que les choses étaient plus compliquées. Voilà ce que j'ai voulu exprimer.
Puisque vous évoquiez l'émotion qui était celle des soignants que vous avez rencontrés lors de cette soirée funeste du 13 novembre 2015, il y a eu d'autres attentats évidemment en janvier, il y a eu ceux de Nice en l'été 2016. Ce sont des moments, alors qu'évidemment vous racontez dans votre ouvrage, puisqu'à l'époque vous êtes ministre de l'Intérieur, et vous dites ceci, vous vous retrouvez face au président de la République, François Hollande. « Chacune de nos paroles traduit ce mécanisme propre à l'État qui va jusqu'à effacer la moindre manifestation de sensibilité chez ceux qui en assument la charge. » Est-ce que gouverner en temps de crise, Bernard Cazeneuve, c'est aussi justement ne pas montrer que l'on peut être affecté directement, personnellement, par ces crises? Est-ce que ça veut dire qu'il faut, par exemple, assumer physiquement le fait qu'on doit rassurer avant tout?
Il y a une dimension d'exercice physique dans l'exercice du gouvernement en temps de crise, et notamment lorsqu'on est confronté à l'extrême violence. Alors ça peut être la violence terroriste qui conduit des individus qui sont radicalisés et qui sont partis sur le théâtre des opérations en Irak et en Syrie à revenir pour frapper leurs prochains en semant partout l'effroi et la terreur. Et lorsque nous sommes à proximité du Bataclan, 3 heures après l'attaque, et que l'on voit le visage de ceux qui étaient dans la salle de concert et qui sortent blessés ou meurtris, affectés psychologiquement, on mesure finalement ce qui s'est emparé du pays. On le mesure immédiatement à travers les regards qu'on croise. Et ce sentiment, il s'appelle le chagrin. Et on peut être responsable politique, incarné à ce moment-là, parce qu'on est président de la République, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, la nécessité pour le pays de demeurer debout, et par conséquent se trouver contraint de ne pas manifester son émotion. On n'en est pas moins des êtres humains.
Mais sensibles. C'est quelque chose que vous faites de manière réfléchie, ou bien c'est quelque chose finalement qui s'impose à vous, parce qu'il faut agir, il faut réagir?
C'est quelque chose qui s'impose à nous, parce que lorsqu'on est confronté à ces situations et qu'on a ces responsabilités, on se trouve contraint par une mécanique d'ailleurs qui nous dépasse et qui nous échappe à nous effacer derrière la fonction qu'on incarne. Et c'est dans les moments d'extrême solitude qu'on se retrouve face à soi-même avec la possibilité de laisser l'émotion s'exprimer. Mais jamais lorsqu'on est en situation d'être regardé, même s'il m'est arrivé à une ou deux reprises d'être emporté par l'émotion des circonstances où je me trouvais. Je me souviens notamment des obsèques du chef d'entreprise qui, dans l'Ain, avait été décapité, assassiné par un terroriste, où il y avait autour de son cercueil toute sa famille, son fils et toute une ville qui était frappée par la tragédie. Et à ce moment-là, j'ai ressenti l'émotion qui s'était emparée d'un pays tout entier. Et cette émotion a affleuré. Ça peut arriver, mais ça ne peut pas être la modalité d'expression de la mission du ministre de l'Intérieur.
L'émotion et aussi peut-être parfois les regrets, voire les remords de se dire qu'en tant que ministre de l'Intérieur, on n'a pas été capable d'empêcher ce qui aurait peut-être pu être évitable, à savoir ces attaques terroristes.
Mais on serait un curieux personnage si, en charge de la protection des Français, alors que des attentats surviennent, et qui font de nombreux morts, on ne se posait aucune question sur la manière dont les événements se sont enchaînés, ce que l'on aurait dû faire et que l'on n'a pas pu faire, sur les raisons pour lesquelles les choses se sont produites ainsi, de manière à pouvoir corriger par l'action les décisions à venir, ce qui a pu dysfonctionner par le passé. Il faut bien voir dans quelle situation nous étions en 2014. Vous parliez tout à l'heure des services publics, de l'ancien ministre du budget que j'avais été avant d'être ministre de l'Intérieur. Mais il y avait eu près de 13 000 suppressions d'emplois dans la police, dans la gendarmerie, dans les services de renseignement, dans une période qui n'était pas si lointaine de celle à laquelle j'avais pris mes responsabilités. Place Beauvau, il y avait une réorganisation du renseignement. Il y avait eu près de 80 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale où sont enseignées les valeurs fondamentales de la République.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Bernard Cazeneuve, que gouverner en temps de crise, c'est aussi renvoyer la responsabilité à ses prédécesseurs ?
Non, gouverner en temps de crise, c'est être dans une course contre la montre lorsqu'on est confronté à une situation comme celle que je viens de décrire. C'est-à-dire que lorsque j'arrive le 2 avril 2014 à Beauvau, que dans une passation de pouvoir extrêmement brève, Manuel Valls me dit « il y a un phénomène dont les Français n'ont pas conscience parce que la presse n'en a pas encore fait état et que les drames ne sont pas encore survenus, qui est le départ en nombre de plus en plus important de jeunes Français sur le théâtre des opérations terroristes. Ils partent après s'être radicalisés, ils reviendront avec le seul et unique objectif de frapper leur prochain. Et la loi sur le renseignement est en vigueur aujourd'hui, date de 1991. » C'est-à-dire d'une époque où il n'y avait ni téléphone portable ni Internet. Et les terroristes utilisent des moyens cryptés pour communiquer entre eux de manière à ce que la préparation de leurs actes échappe aux services de renseignement. Il faut prendre une loi de modernisation du renseignement. Mais une loi de modernisation du renseignement, c'est au minimum 6 mois de débat parlementaire. Parce que ça touche aux libertés publiques, parce que ça peut conduire à des débats dans une démocratie qui sont consubstantielles à l'exercice démocratique, qui sont des débats contradictoires et légitimes. Et souvenez-vous que...
Et ça a été le cas, il y a eu des débats.
Ça a totalement été le cas. De la même manière, lorsque nous prenons des dispositions concernant l'état d'urgence dans la nuit du 13 novembre, non pas parce que nous voulons remettre en cause toutes les libertés, mais parce que l'état de droit prévoit la mise en place de l'état d'urgence, que nous sommes dans une situation où quelques semaines après aura lieu la COP21 qui rassemblera près de 1 500 personnes représentant les délégations du monde entier, qu'il faut contrôler les frontières, que nous ne savons pas d'ailleurs si tous les terroristes qui ont organisé cet attentat sont encore ou pas dans la nature et que nous devons assurer de façon extrêmement rapide la mise en œuvre de mesures destinées à rendre cette conférence internationale possible et à protéger les Français, il y a un débat sur la remise en cause des libertés publiques, comme il y a un débat au moment de la loi sur le renseignement, sur la mise en place d'une société où la surveillance de masse se substituerait à toutes les libertés. Et ça, c'est la démocratie. Et les terroristes qui s'en prennent à nous parce qu'ils veulent remettre en cause nos libertés et le modèle démocratique ne peuvent pas être satisfaits de nous voir renoncer à la démocratie au prétexte qu'il faudrait les combattre, parce que sinon c'est leur victoire idéologique et intellectuelle que nous consacrerions. Donc c'est l'ensemble de ces sujets qui sont sur le métier lorsque nous devons agir, et nous sommes dans une course contre la montre, parce que tout ce que je vous décris là, c'est le décalage qui existe entre l'urgence pour être efficace et ce que sont les processus, les procédures de décision dans une démocratie qui implique du temps, du débat, de la confrontation. Et cette course contre la montre, elle sera finalement ce qui, pendant toute cette période, présidera à la fois à mes réflexions et à mon action.
Et ces procédures, Bernard Cazeneuve, elles sont notamment réglées par les institutions. Est-ce que c'est important d'avoir des institutions solides quand on est confronté à ce genre de crise? Alors, en l'occurrence, les institutions de la Ve République.
Je suis très favorable aux institutions de la Ve République, ce qui va donner un argument supplémentaire à ceux qui ont tendance à penser que je suis intellectuellement, politiquement, parfois même vestimentairement, totalement démodé. Pourquoi est-ce que je crois aux institutions de la Ve République? Vous voyez, je n'hésite pas à donner des arguments à ceux qui, parfois...
Ah, c'est votre côté Cyrano de Bergerac, ça.
C'est pas mon côté Cyrano de Bergerac, c'est mon côté lecteur méticuleux de Yankelevitch qui croit aux vertus de l'ironie. Et l'ironie n'a de valeur que pour autant qu'on commence à l'appliquer à soi-même, ce qui n'est pas la chose la mieux partagée dans le champ politique. C'est comme, vous l'avez remarqué, c'est comme les poissons volants. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus commun dans le genre, pour reprendre une formule de Michel Audiard, qui est une autre forme de philosophe. Ce que j'ai vécu à ce moment-là, pour revenir à l'action qui était la mienne, c'était la nécessité à chaque instant de faire en sorte que nous puissions avoir des résultats et de les avoir dans des conditions où nous étions dans cette course contre la montre.
Est-ce que ce sont des moments, Bernard Cazeneuve, qui peuvent aussi remettre en cause les convictions qui sont les vôtres ou qui sont celles des dirigeants politiques? Parce que quand on est confronté à des crises à de telles urgences, on ne pense peut-être pas en fonction de ce que l'on pense politiquement, mais plutôt parce qu'il y a des décisions qui finalement s'imposent. On fait preuve de pragmatisme. Je ne pense pas là, en l'occurrence, aux attentats terroristes, mais si on pense au précédent chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui, confronté à la crise financière de 2008-2009, va mettre en place une politique de relance keynésienne qui n'était pas a priori ce qui faisait partie de sa famille politique.
Les convictions s'expriment avec d'autant moins de force au moment des crises, qu'elles étaient peu solides avant que les crises ne surviennent. Bon, je vais prendre des exemples très concrets. Sur la question des libertés publiques, moi je suis un républicain ardent, je suis un laïc ardent, je crois à la nécessité pour ceux qui sont en situation de responsabilité d'organiser toujours les choses pour que, par la disposition des choses, précisément pour reprendre l'expression de Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, lorsque j'étais en situation d'exercer des responsabilités publiques au ministère de l'Intérieur, en pleine crise terroriste, avec l'état d'urgence, je voyais bien que l'état d'urgence n'était pas une remise en cause de l'état de droit, mais l'application dans l'état de droit de ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles. Des circonstances exceptionnelles, le terrorisme, justifiait qu'on mette en place des mesures exceptionnelles, police administrative, qui ne remettaient en cause nos libertés publiques que dès lors qu'aucun contrôle ne s'exerçait sur ceux qui mettaient en œuvre ces mesures de police administrative. Il fallait donc un contrôle juridictionnel puissant, un contrôle parlementaire puissant. Et à ce moment-là, ma conviction de républicain attachée aux libertés publiques, c'était de rendre compte devant le Parlement, devant le juge administratif, devant la presse, devant l'opinion publique de ce qu'était le contexte, et d'accepter toutes les critiques d'où qu'elles viennent, en mettant un soin particulier à y répondre et sans jamais être dans le mépris de la position de tel ou tel acteur politique, associatif, organisation non gouvernementale qui critiquait ce que je faisais. Et par exemple, j'ai été amené à aller très souvent devant la commission consultative des droits de l'homme qui mettait en cause les mesures de l'état d'urgence, l'action du ministère de l'Intérieur, pour expliquer point par point les raisons pour lesquelles nous agissions ainsi plutôt qu'autrement. De la même manière, lorsque j'ai dû procéder à l'évacuation de Calais, c'était un moment pour moi très important sur le plan politique, plein de signification, où l'action et les convictions devaient converger. Il y avait 12 000 migrants à Calais, qui étaient dans une situation de précarité extrême, qui vivaient dans la boue. On avait décidé de financer avec l'État la mise en place de repas, des moyens de protection sanitaire. Les organisations non gouvernementales faisaient un travail absolument remarquable que l'État n'aurait pas pu faire lui-même. Elles étaient extraordinairement critiques à l'égard de l'État, considérant qu'il n'en faisait pas suffisamment. Pendant 6 mois, avec les préfets, je me suis employé à ouvrir 670 centres d'accueil et d'orientation en France pour permettre à ces migrants d'être mis dans le dispositif national d'asile, d'être dans des bâtiments durs, de pouvoir avoir des repas, d'avoir accès à l'asile. Et à ce moment-là, toute une série d'acteurs se sont mis à expliquer que nous organisions non pas la mise en protection des migrants, mais leur déportation à partir de Calais. Ce terme de déportation a été utilisé. Et c'était notamment des organisations d'extrême-gauche qui sont plus soucieux de posture et d'expression de propos de nature à semer le doute, la tension et le désordre, plutôt que de voir des solutions humaines trouvées. Et bien à ce moment-là, j'ai eu le sentiment d'être en convergence profonde avec mes convictions, même s'il y avait d'énormes débats et parfois conflictuels, en prenant les décisions que j'ai prises et en les mettant en œuvre. Mais ça n'a pas empêché la confrontation démocratique et je l'ai assumée.
Donc je retiens que plus les convictions sont fortes, plus les crises, quand elles arrivent, permettent de prendre des décisions en conformité avec ces convictions.
Alors, sont aussi la politique est un art de la conviction. Et ce qui me frappe dans la période où nous nous trouvons, et les crises de ce point de vue-là ne contribuent pas à résoudre les choses, c'est que nous sommes dans une période où beaucoup trop de politiques considèrent que la politique est un art non pas de la conviction, mais de la séduction.
Cela dit, Bernard Cazeneuve, les crises, elles peuvent aussi permettre parfois de changer les choses et d'opérer des tournants. Bonjour Antoine Ulster.
Bonjour.
La crise comme accélérateur de réforme, c'est le thème de votre chronique aujourd'hui.
Oui, je suis parti du constat que nos républiques ont toutes été instituées dans des périodes de troubles. La défaite de Sedan, les lendemains de la libération ou la guerre d'Algérie. Et on comprend parfaitement la logique de ces bouleversements, quoi de plus naturel que de se renverser la table quand un cadre institutionnel est dépassé par le cours des événements. Mais toutes les révolutions politiques ne s'engagent pas de la même manière, et on peut distinguer, peut-être un peu schématiquement, deux méthodes qui furent celles de deux grands présidents de la Ve République, Charles de Gaulle et François Mitterrand. Charles de Gaulle lance en 1958 un changement politique qui vient de loin et qui s'appuie sur des réflexions formulées notamment par André Tardieu. Cet ancien président du Conseil sous la IIIe voulait en finir avec l'instabilité gouvernementale et restaurer la primauté du pouvoir exécutif en France. Un programme que de Gaulle revendique dès le discours de Bayeux et qu'il met en œuvre à partir de 1958. À l'autre bout du spectre, pour ce changement politique, il y a la méthode Mitterrand. Mitterrand, élu sur la promesse de changer la vie et qui engage des réformes sociales et sociétales emblématiques, abolition de la peine de mort, impôt sur la fortune, doublement des crédits de la culture, semaine de 39 heures, etc. Transformer les institutions ou transformer le quotidien des Français, il y a là deux manières opposées de révolutionner la politique en réponse à deux types de crises, crise de régime en 1958, crise économique et sociale en 1981.
Alors en quoi, Antoine, ces deux façons d'envisager le changement nous éclairent-elles sur les crises actuelles ?
Eh bien, ce qui est frappant, c'est que ces révolutions politiques du passé étaient toujours partielles. De Gaulle ne transforme pas la société française en 1958, mais seulement, entre guillemets, les règles du jeu politique. En 1981, Mitterrand s'attaque à des réformes sociale et sociétale, parce qu'il sait pouvoir compter sur la stabilité des institutions de la Ve. Or, aujourd'hui, les crises se conjuguent, crise sociale, économique, sanitaire, écologique, etc. Et la marge de manœuvre des gouvernants se réduit comme peau de chagrin. La crise des gilets jaunes en fut une bonne illustration. L'augmentation de la taxe carbone, une mesure à visée écologique, a déclenché la révolte sociale que l'on sait. Et le constat est général. Quel que soit le levier que le pouvoir actionne, d'autres problèmes apparaissent. En prenant un peu de recul, on peut y voir une crise de notre manière même de nous représenter la politique, à commencer par cette idée selon laquelle nos dirigeants et nos institutions détiendraient seuls le pouvoir de transformer le réel. Et face à cet effondrement de cette croyance, il n'est pas inintéressant de lire et d'écouter les analyses des intellectuels qui s'intéressent justement à l'idée de l'effondrement. Pablo Servigne, par exemple, donne une piste intéressante. Selon lui, nos récits sont déficients et il faut donc en inventer de nouveaux pour imaginer un avenir souhaitable et se donner ensuite la possibilité de le construire. Alors on ne sait pas jusqu'où cette collapsologie de Pablo Servigne peut renouveler la pensée politique, mais la question en tout cas est posée. S'il faut d'abord transformer nos mythes politiques, avec qui et comment faut-il le faire ?
Bernard Cazeneuve, pour rester sur cette question écologique, il nous reste plus beaucoup de temps, on est déjà presque au terme de cette émission off, il nous reste 3 minutes.
Mais j'ai plus de temps, moi, si vous voulez.
Oui, mais alors voilà, c'est le problème de l'antenne, c'est que sinon ceux qui nous suivent ne seront pas tout à fait contents. Non, cette crise qui vient, qui est en cours d'ailleurs, qui est la crise climatique, qui est une crise du temps long, est-ce que cette crise-là, elle n'est pas aussi susceptible de pousser à changer de modèle ? Est-ce qu'il ne faut pas en profiter pour modifier de manière un peu radicale le système dans lequel nous évoluons aujourd'hui ?
Je me méfie beaucoup de la radicalité dans la manière dont on conduit l'action publique et de la radicalité politique, au sens où il n'y aurait d'efficacité que dès lors que l'on ferait table rase de tout ce qui a précédé. Je suis un réformiste et je crois, y compris sur la question de la transition écologique, qu'il faut parvenir à faire consensus et à trouver des compromis sur un certain nombre de questions fondamentales sans lesquelles il n'y aura pas de transition écologique. Je vais prendre un exemple très concret. Vous ne pouvez pas lutter contre les inégalités qui s'accroissent et rendre la transition écologique soutenable si vous n'avez pas de croissance. Et vous ne pouvez pas régler le problème de la transition écologique si vous faites de la croissance comme il en a été fait depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire avec des processus de concentration capitalistique et d'exploitation des ressources naturelles qui conduisent à la destruction de tous les biens communs.
Donc, c'est vrai que c'est une position qui fait débat, ça. C'est-à-dire certains considèrent qu'on peut tout à fait, qu'il faut découpler même croissance et transition écologique, sans quoi cette transition ne se fera pas.
Oui, mais c'est la raison pour laquelle précisément je pose ce débat. C'est parce que ça fait débat et que ça me paraît être un débat de fond. Et un débat d'ailleurs qui peut différencier ceux qui sont des sociodémocrates réformistes de ceux qui portent une pensée écologique plus radicale, que je pose cette question parce que les sociodémocrates ne sont pas des écologistes et l'inverse est vrai. Et je pense qu'il faut créer les conditions d'une croissance sûre et sobre pour pouvoir continuer à créer des richesses qui seront réparties pour réduire les inégalités. Et la croissance sûre et sobre, c'est la croissance qui permet par exemple de substituer à l'agriculture intensive, productiviste, qui conduit les agriculteurs à s'endetter grandement, à utiliser des produits dont on voit qu'ils appauvrissent les sols et qui les appauvrissent à long terme, une agriculture de circuit court, beaucoup plus humaine, beaucoup plus respectueuse de l'environnement, moins utilisatrice d'intrants, etc., etc. De la même manière, si l'on veut continuer à construire, on ne peut pas construire en artificialisant les sols, en créant les conditions d'une expansion urbaine non maîtrisée, en continuant à faire des centres commerciaux à proximité des villes sans revitaliser les centres-bourgs. Dans une région comme la nôtre, comme celle où nous sommes aujourd'hui, à Blois, cela a beaucoup de sens. Et par conséquent, il faut investir davantage dans l'éco-construction que dans les opérations de promotion à proximité des villes qui détruisent des espaces agricoles et détruisent l'environnement. Et donc, il existe une possibilité de continuer à produire dans des conditions qui font de la croissance sûre et sobre pour pouvoir répartir les fruits de cette croissance et lutter contre les inégalités. Si l'on dit à ceux qui n'ont rien, qui sont les plus pauvres, qui ont le sentiment de la relégation la plus grande, vous avez été victime du capitalisme et de la croissance telle qu'elle a été vécue puisque vous n'en avez pas profité. Et comme vous n'en avez pas profité, on vous annonce que vous n'en profiterez plus jamais parce que désormais, la problématique écologique fait que nous allons organiser la décroissance. Je ne pense pas que nous rendrons la transition écologique socialement soutenable et politiquement acceptable. C'est ce défi politique majeur qu'il nous faut résoudre et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de commettre un long article dans la revue Le Débat il y a de cela quelques mois pour dire qu'on pouvait avoir une pensée sur l'économie
de la production disparu, mais on peut
et sur l'écologie
votre,
en même temps.
Arrêter un ancien ministre de l'Intérieur, est-ce que c'est faisable? C'est très compliqué.
Je ne parle pas souvent, vous m'invitez peu souvent, j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'en profite.
Faites juste comme si vous étiez sur BFM TV, un nom, un seul nom, Bernard Cazeneuve, pour porter ce projet de la transition écologique en 2022. Ce serait qui?
J'ai une idée.
Ah ben dites-la nous, parce que vous avez envie de parler.
Non, mais je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Parce que on ne retiendra de cette émission où je me suis employé à dire beaucoup de choses que le nom que je vous ai communiqué. Et ce n'est pas mon souhait.
Merci beaucoup Bernard Cazeneuve en tout cas d'avoir participé à ce numéro de Politique. Merci aux équipes des Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Milena Eilig, avec à la prise de son Benoît Guégou, Fabien Gosset, Georges Thau, Éric Audra et Jean-François Georges. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr.